vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 110, une semaine avec Primo Levi, Catherine Petitjean. Ah, chers amis, bonjour. Vous refermez ce livre, l'auteur est anglais ou italien, vous l'avez lu en français. Avez-vous prêté attention à cette petite ligne, pas vraiment mise en valeur, qui dit « traduction de XY ou de YZ » ou « traduction par Catherine Petitjean » La liberté, c'est de parler avec la pensée des autres. C'est, si je me souviens bien, Jean-Pierre Léo qui s'enflamme ainsi dans le film « La maman et la putain », la libération de la parole par la grâce de mai 68 et de Deleuze, et peut-être aussi un exercice d'humilité devant des textes de génie de l'écriture. Bonjour Catherine Petitjean.
Bonjour Ambroise Perrin.
Alors, vous êtes donc traductrice et vous traduisez non pas des modes d'emploi d'IKEA, mais de grands textes, comme par exemple le système périodique de Primo Levi. Alors Primo Levi, on va y revenir, mais d'abord, dites-moi, madame la traductrice, est-ce que vous écrivez aussi des textes, des essais, des romans de vous-même ?
Pas vraiment, j'ai simplement accès à un certain nombre de notes prises lors de la rencontre avec Primo Levi, de laquelle j'ai publié un livre sur le métier d'écrivain et de traducteur, puisque Primo Levi, d'une part, était bien sûr écrivain, mais traducteur aussi. Et donc, notre rencontre en dehors...
C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Mais je voulais vous demander, vous-même, parce qu'être traducteur, donc, je disais, c'est une œuvre d'humilité quand même. Mais vous-même, vous n'avez pas envie d'écrire. Mais je sais pas, même une série Harlequin, une belle histoire d'amour, un couple avec un chien... comment ça s'appelle le mourir. Non, c'était pas avec Caillard. Enfin, il y a un beau film qui a cartonné dans les
mourir
années.
Mourir d'aimer.
Non, c'était pas Mourir d'aimer, c'était Histoire d'amour ou un couple qui se rencontre à Hyde Park avec un chien et ça fait une très belle histoire. Vous avez pas envie d'écrire ce genre d'histoire?
Ça pourrait être l'histoire de ma rencontre avec mon mari et son chien, pourquoi pas. Mais oui, écrire, ça a toujours été un objectif. Écrire un roman, j'aimerais beaucoup.
Mais pas seulement pour la pensée des autres, parce que vous avez quand même déjà pas mal de métiers.
Oui, j'ai écrit des nouvelles pour enfants, des contes pour enfants, oui. Quand j'étais plus jeune, dont deux ont été primés, mais ça remonte à longtemps.
Et quand vous étiez toute jeune, vous ne rêviez pas d'être coiffeuse, vous rêviez d'être traductrice?
Je rêvais d'écrire. J'ai toujours rêvé être à la fois prof, parce que j'ai toujours aimé écrire au tableau, le bruit de la craie sur le tableau, l'odeur de la
le
craie.
Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain, comme il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Voilà, et donc le petit bruit qui crisse sur le tableau.
Pas les ongles, hein, mais la craie sur le tableau noir.
Et ça rend les élèves attentifs?
Oui. Parce que j'écris des deux mains, alors du coup ça les...
Ah, vous êtes gauchère et droitière
pour écrire, oui.
Et alors vous pouvez écrire de la main gauche votre cours.
Oui,
et de la main droite, vous dites, attention Maurice, je te vois en train de bavarder, j'ai des yeux derrière la tête.
Voilà. J'écris comme ça des gros mots au tableau,
ça marche bien.
Les gros mots en anglais, les gros mots en italien.
Parce que vous enseignez l'anglais.
J'enseigne l'anglais et l'italien. J'enseignais parce que maintenant je suis retraitée. Mais j'enseignais l'anglais et l'italien. Et le bonbon de fin de cours, c'était un gros mot en anglais ou en italien, si les élèves avaient été sages.
Voilà. Donc quand même, une vie entière vouée à la pensée des autres. Hein, oui. Je reprends mon idée au départ, avec quand même des petites incursions dans donc des livres pour enfants. Mais... Avant de détailler donc votre long parcours brillant et assez éclectique, Donc des textes aussi pour la Fondation Auschwitz,
oui.
Pour des églises baptistes, voilà, bon.
Oui.
Des scripts de films.
Absolument.
Et puis, bon, alors c'est l'actualité, donc c'est pour cela que je vais citer tout de suite. Vous avez traduit la biographie de Billy Graham, je ne sais pas, il y a 800, 900 pages, enfin c'est énorme pavé.
Un pavé très agréable à traduire et très gai aussi, très positif.
C'est aussi long que Les Bienveillantes de Jonathan Little, que j'adore.
C'est aussi long, énormément d'anecdotes, et c'est un petit peu au style Tupperware, évidemment, puisque c'est américain, et on aime beaucoup parler des statistiques, et des statistiques positives, bien entendu, mais l'homme est en fait... extrêmement connu, puisqu'il est à la base de tout le mouvement évangéliste américain et qui fait parler de lui aujourd'hui face à Trump, etc. Mais l'homme en lui-même, quand il a raconté sa vie, il restait avec un peu son âme d'enfant et racontait les choses avec un détachement très positif et très humoristique aussi.
Donc ça, c'est votre dernière traduction, telle que je suis, de Billy Graham. Mais j'aimerais savoir comment vous travaillez. Vous vous levez tous les matins à 4 heures avant d'aller à l'école.
Non, je suis très
traduire dans la tranquillité. Après, les enfants, le mari, le chien, tout le monde se lève. Mais vous avez traduit 30 pages. Non, c'est pas comme ça.
Non. Je suis très paresseuse. Je me lève. Je ne me lève plus aussitôt.
Trois minutes avant de courir d'aller à l'école.
Voilà. Non, à l'école j'étais plus lève-tôt, mais maintenant non. Je laisse le soleil venir et quand je me lève, je pense à ce que je vais faire. Je pense à ce que je vais écrire, et voilà, je suis assez cool dans ma manière d'écrire, mais je n'écris pas un certain nombre de pages fixes. J'écris tant que ça m'inspire.
Donc vous ne savez pas quand vous aurez fini.
Voilà, exactement.
Donc un livre, c'est au moins une année.
Celui-ci, ça a duré un peu plus d'un an.
Donc c'est un an avec le même personnage dans la tête.
Votre mari n'est pas
jaloux, non?
Non, pas du tout, parce que ça laisse le temps de relire. Et mon mari relisait, bien sûr.
Au moins, les maris servent à quelque chose.
Voilà.
D'habitude, quand c'est les hommes, ils disent « Oui, ma femme me fait la cuisine parce que j'ai pas le temps. » Et tout. Voilà, d'accord.
Mais non, mon mari est une grande tondeuse littéraire aussi. Donc du coup, son coup d'œil, son avis sur certains mots, sur certaines choses sont positifs et attendus d'ailleurs.
Et alors l'éditeur lui-même, la personne qui vous a commandé, entre guillemets, la traduction, alors d'ailleurs, plutôt, soyons plus précis dans la question, est-ce que vous traduisez quelque chose, vous lisez le bouquin, ça vous intéresse, c'est votre sujet, ça vous passionne, vous le traduisez, ou vous attendez que ce soit une commande, parce qu'il faut être payé pendant un an?
Oui, mais bon, si on reste sur le livre de Billy Graham, la traduction de Billy Graham avait déjà été réalisée en français il y a très longtemps, épuisée, et les droits étaient à nouveau libres, je suppose, puisque l'éditeur proprement dit a lui-même fait toutes les démarches nécessaires et administratives. Je suis partie en fait du texte originel, du texte anglais, qui a été revu et réécrit et complété par Billy Graham lui-même, puisque c'est une autobiographie. Et donc le texte, je l'ai
Le texte daté de quand en anglais ?
En anglais, a été terminé, complété en 2006 ou 2007.
Ah oui, donc c'est un texte récent.
Voilà,
mais les premières pages sont beaucoup plus anciennes. J'avais cherché, je crois, 1997.
Voilà, ça c'est le premier jet et la première version. Et puis comme il a continué à parler et à conseiller aussi bien Obama, etc., et que son ministère n'était pas encore terminé, il a complété pour terminer en fait son œuvre.
Et alors parce qu'en France on ne connaît pas vraiment Billy Graham,
Il est venu à Paris dans les années 80,
oui.
il a sillonné le monde.
C'est un bouquin qui marche bien, enfin, je demande ça.
Je n'en sais absolument rien.
D'accord.
Je ne suis pas l'éditeur.
Oui.
Billy Graham,
mais vous n'êtes pas payé au pourcentage alors?
Absolument pas.
Oui,
non, même pas à la page.
Ah oui, et si le bouquin est tiré, je ne sais pas, à 500 000 exemplaires.
Ça, ce serait bien.
L'éditeur vous fait un petit geste.
J'espère.
Oui, d'accord. Donc vous le faites aussi...
C'est un jeune éditeur, hein, c'est une maison d'édition toute petite.
Par coup de cœur, alors ?
Par coup de cœur, oui. Par coup de cœur exclusivement.
Oui.
C'est comme ça que j'ai fait Primo Levi et son neveu, et ça a toujours été un coup de
cœur. Est-ce que vous pouvez tomber amoureuse, comme on dit au Canada, hein, puisque les traductions se font aussi pour ces pays-là, d'un texte et le proposer à un éditeur ?
Oui. Tomber en amour, comme on dit au Canada.
Oui.
Oui, il y a un texte que j'aimerais beaucoup faire publier, mais qui est aujourd'hui pas encore publié. En fait, deux. Il y a un auteur qui est Frediano Sessi, qui a beaucoup écrit sur la déportation des enfants, qui a écrit un livre merveilleux et qui n'est pas encore publié, mais qui est vraiment un texte merveilleux. Et puis, il y a aussi un auteur, Tabucchi, qui est un auteur italien, qui a écrit l'histoire du trésor de Gengis Khan, qui est encore aujourd'hui caché, mais dont il a raconté l'histoire et comment on est arrivé à connaître son existence. Et c'est aussi un livre qui n'est pas encore traduit, qui est un texte magnifique aussi, très technique au début, mais très... qui nous fait rêver parce que ça nous enlève, ça nous emmène
donc,
dans les déserts.
Ce texte mongolien, vous pourriez dire à un éditeur, j'adore ce texte,
oui,
c'est formidable, et l'éditeur se dit, ah... c'est la mode, les voyages en Mongolie, je vais l'éditer.
Ah,
ou alors, est-ce
bien.
Que vous arrivez à lui faire partager votre passion ? Est-ce que il y a quand même l'aspect rentabilité qui rentre en compte dans ces cas-là ?
Dans le monde de l'édition, il y a toujours le problème de la rentabilité, c'est certain. Maintenant, il y a un livre qui a été vraiment un coup de cœur pour moi parce que c'était un livre lié à mon travail hors traduction, et qui était en fait la vie de Andrea Viterbi, qui est l'homme qui aujourd'hui est à la base de toute la télécommunication, puisqu'il a, succédé à Shannon pour le développement des télécommunications par satellite. Et si vous avez aujourd'hui un portable, un GSM, comme on dit en Belgique, qui fonctionne, c'est grâce à lui, parce que c'est son algorithme qui fait fonctionner les radios et les portables d'aujourd'hui.
C'est pas le mathématicien Alexandre Gauthier.
Non, c'est Andrea Viterbi qui est en fait qui a reçu le prix Marconi il y a quelques années et qui est à la base de tout le développement des modems, et d'ailleurs son nom est maintenant l'unité de volume du modem, c'est donc le Viterbi. Et donc cet homme était le neveu de Primo Levi, et c'est grâce à lui que en
vous allez boucler
le
centre d'intérêt.
Exactement.
Voilà.
Et c'est en fait en découvrant tout simplement sur Amazon, puisque voilà, Amazon fait beaucoup de choses, le livre de Viterbi, où c'était directement lié au travail que j'accomplissais dans la société où je travaillais. Et là, j'ai acheté le livre, puis je l'ai
Alors, on
terminé.
Peut acheter son livre dans les petites librairies de quartier. Je cite chapitre 8, rue de Vernet à Strasbourg, parce que j'habite à côté. Mais on peut aussi aller sur Zomanon. Comment ça ? Non, ne répétez pas le nom. Aucune idée. Non, mais bien sûr, c'est tellement pratique. Hein. Mais parce qu'on commande à 9h du soir, et à 9h du matin, il est dans la boîte aux lettres. C'est vrai que ça évite de courir dans la fameuse salle 7. Alors, vous n'êtes pas strasbourgeoise, mais tous ceux qui ont fait leurs études à Strasbourg, quand on avait besoin d'un bouquin, on allait à la salle 7 de la BNU. Tout en haut, la BNU a été restructurée, donc c'est un peu différent, mais il y a des générations d'étudiants comme moi, et après les études, on allait là-bas, ça devait être un silence absolu, on pouvait réserver les livres qu'on voulait. Ceux qui n'étaient pas à Strasbourg, on les faisait venir de Toulouse ou d'ailleurs, il fallait 3 semaines, on n'avait pas le droit de les ramener à la maison, mais c'était formidable. Et puis surtout, la salle 7, assez grande, c'était formidable pour draguer. Le nombre d'étudiants qui ont étudié là-bas. Donc, il y a ça, les petites librairies, et puis le fameux truc de vente en ligne. Mais alors, quand vous avez le bouquin en main, vous regardez, et c'est marqué tout droit réservé, y compris l'URSS et le Canada. Pourquoi ?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Parce qu'en fait, ce sont des pays qui ont des accords particuliers au niveau de l'édition, et qui sont régis par des lois particulières.
Mmh. Et alors, par exemple, vous traduisez de l'italien en français.
Mmh.
Votre traduction est géniale. Est-ce que quelqu'un qui veut le traduire, je ne sais pas, en serbo-croate ou dans une autre langue, va se servir non pas de l'original italien qu'il ne maîtrise pas, mais du français? Donc ça va faire un rebond de plus.
C'est... Normalement, dans le domaine de la traduction littéraire, on part toujours du texte original.
Oui.
Sauf si c'est un dialecte particulier qui n'est vraiment pas répandu. Mais normalement, on part de la langue originale parce que justement, au niveau de la traduction, il y a toujours un choix. Le choix est évidemment une compromission, comme on dit. Et donc, le choix des mots n'est pas forcément la source d'un mot dans une troisième langue et qui correspondrait au mot d'origine. Donc,
oui. Alors, je suppose qu'il y a beaucoup de séminaires, de colloques, de traducteurs sur la sémiologie, sur la théorie. Moi, je connais des traductions de Madame Bovary, puisque je travaille là-dessus, qui ont été faites au début des années 1920-1930, à partir de la version russe. Et non pas à partir de la version française, parce que c'était des gens, traduction en kirghize, à partir du russe, bon, il ne reste pas grand-chose. Une traduction indienne aussi, en Inde, qui a été faite, et puis à la fin, Madame Bovary, Emma Bovary ne prend pas de l'arsenic, c'est son mari qui la tue, parce que le traducteur a trouvé que une femme qui prenait son destin en main, voilà. Donc vous-même, en tant que traductrice, vous pourriez un petit peu faire changer les choses, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que dit l'auteur, ou vous trouvez que c'est pas clair et tout, vous allez simplifier et faire ça.
Personnellement, non, je ne l'ai jamais fait. J'essaye de rester absolument fidèle, non seulement aux mots, mais à la pensée de l'auteur. Les libertés que je prends parfois, c'est au niveau du rythme des phrases ou de la longueur des phrases.
Oui, alors vous traduisez Proust en phrase de 4 mots, c'est ça? Non.
Ouais. Peut-être pas 4 mots, mais peut-être plus 20 lignes.
Mais parfois...
Sauf si c'est un effet de style, parce que là, on est obligé de le respecter.
Alors, On the Road de Kerouac, qui a écrit ça sur une seule feuille de, je sais plus, 50 mètres de long, des traducteurs... Alors, bon, je l'ai lu en anglais, bien sûr, en livre de poche, et je l'ai relu en français pour un petit travail, et je me suis aperçu que le traducteur disait... Alors, il mettait des notes en bas de page, il disait « L'auteur a voulu dire que... » Et il simplifie. En fait, il dit mieux que l'auteur. C'est comme Finnegan's Wake, impossible à lire, de Joyce en anglais. Il y a un traducteur, son nom m'échappe, qui a mis 20 ans à traduire ce livre en anglais. Et si on le lit en français, ben c'est beaucoup plus clair qu'en anglais. Et je connais des Britanniques, alors je vais faire le malin, Julian Barnes, qui m'a dit qu'il l'avait lu en français et il avait beaucoup plus apprécié la version du traducteur que la version originale. C'est flatteur, ça, pour vous?
C'est flatteur, effectivement. Parce qu'en fait, ça met en évidence aussi la qualité de l'écriture, la sensibilité du traducteur, qui est peut-être plus à la portée du lecteur que l'auteur lui-même. Maintenant, c'est quand même une trahison, quelque part. Ce n'est plus vraiment une traduction, mais une vraie trahison. Même si ça enjolive le texte originel, je ne suis pas certaine que je pourrais le faire sans avoir quelque a priori ou mauvaise conscience.
Alors, Catherine Petitjean, vous êtes donc un traître, ou une traître, on dit, voilà.
Traîtresse.
Une traîtresse, donc, oh, c'est joli, traîtresse. Vous êtes une traîtresse, et alors tout a commencé par votre diplôme de traductrice. Bon, c'est une école très rigoureuse, les écoles de traduction, je le sais. Et vous avez choisi une œuvre littéraire pour faire votre mémoire, ce que ne font pas tous les étudiants, qui s'orientent plutôt vers des traductions techniques, peut-être parce qu'il y a plus de débouchés.
Beaucoup de recherches et de travail technique sur la traduction proprement dite. Mais la difficulté probablement de la traduction littéraire était peut-être aussi trop importante.
Alors, vous êtes audacieuse et traîtresse, et jeune étudiante, en 1980, vous choisissez le système périodique de l'auteur de « Si c'est un homme », et vous allez le voir à Turin, vous allez travailler une semaine avec lui, Primo Levi, mais vous avez fait comment?
Eh bien, tout simplement en lui téléphonant. Bon, d'abord... écrire à l'éditeur pour avoir les coordonnées, en expliquant que pour mon travail de fin d'année, je souhaite travailler sur le système périodique qui n'est pas encore traduit ni publié en français. du moins à ma connaissance. Et donc, il me répond très gentiment, me donne le numéro de téléphone et l'adresse de Primo Levi, à qui j'écris. Et lui me téléphone en disant qu'il a bien reçu mon courrier et que si cela me convient, je pouvais venir à Turin le rencontrer. Et nous avons convenu de travailler ensemble une semaine complète en 1980. Donc,
et alors, comment était l'ambiance avec Primo Levi?
Très détendue.
Oui, j'ai lu qu'il était un petit peu fantaisiste, comme ça. Oui, oui.
Je pense que je peux vraiment affirmer que c'est la rencontre de ma vie. Parce que je suis arrivée à Turin... Tout était en fleurs, le quartier où il habitait était magnifiquement fleuri et l'immeuble dans lequel il habitait était un très vieil immeuble typiquement italien avec une cour intérieure. Et on montait chez lui par un escalier qui s'enroulait autour d'un ascenseur.
Avec une rampe en haut de l'escalier qui est l'objet d'une discussion sur son suicide.
Oui. Je ne dirais pas suicide parce que personnellement, je ne suis pas convaincue du suicide.
Alors, vous avez rencontré aussi ici à Strasbourg Jean Samuel.
Exactement,
qui était le piccolo de Primo Levi dans Si c'est un homme et lui-même... affirmer, c'est impossible que Primo se soit suicidé.
Oui. D'ailleurs, en 2006, lorsqu'il y a eu un congrès à Strasbourg sur la réception ici de l'œuvre de Primo Levi et la fin des camps, etc., c'est à cette époque-là que, grâce à vous, j'ai rencontré Jean Samuel, puisque nous sommes allés le chercher chez lui. Et nous avons longuement discuté de cet épisode et de ce qui a été relaté dans la presse, évidemment. Et ça a arrangé un peu tout le monde. Ça a arrangé un peu tout le monde que l'écrivain si connu se suicide parce que c'était dans la lignée de toutes les autres personnalités qui n'ont pas résisté à la pression sur leurs épaules suite à la déportation et à être rescapé et au statut de rescapé.
Voilà. C'est un vaste sujet. Mais donc, alors, vous passez une semaine avec Primo Levi, vous avez gardé des contacts ensuite par la suite.
Oui.
Vous avez édité votre traduction, qui était votre exercice universitaire.
Non.
La raison parce que la traduction existait déjà.
La traduction, en fait, était en voie de finition. Et Primo Levi avait bloqué la traduction chez l'éditeur parce que...
Il ne l'appréciait pas.
Il ne l'appréciait pas d'une part. Et puis surtout, selon lui, le texte français comportait des erreurs fondamentales par rapport à ce qui était véhiculé par chaque chapitre, qui était en fait chaque petite nouvelle, notamment sur l'histoire de sa propre famille. Et donc, elle était bloquée. Et l'éditeur refusait la remise en question du texte de son traducteur. Est-ce que c'était pour des questions de économiques ou pas? Je n'en sais rien. Mais Primo Levi bloquait cette traduction. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé ensemble sur mon travail d'école et pour lequel
dommage qu'il n'ait pas été publié.
Oui, mais voilà. Ça c'est...
Alors, vous devenez une spécialiste de Primo Levi, un petit peu quand même, puisque vous allez dans des colloques, à la Fondation Auschwitz à Bruxelles, vous êtes très active, avec Philippe Ménard notamment, enfin, j'ai suivi votre brillante carrière, et puis vous avez un projet, là, c'est conclusion de notre émission, de traduire la biographie de Ian Thompson. C'est 650 pages. Vous avez déjà commencé cette...
J'ai commencé.
Mais vous n'avez pas d'éditeur. Mais peut-être parce qu'il y a une... Enfin, je ne sais pas si on peut utiliser le mot concurrence, mais il y a la biographie de Myriam Anisimov, déjà, qui existe.
Je ne vais pas rentrer non plus dans les querelles d'éditeurs et les coulisses des éditions, mais la traduction de la biographie de Primo Levi par Ian Thompson est effectivement celle qui est, exacte et qui a été vérifiée par la famille, pour laquelle aussi Renzo Levi, qui a donné toutes les autorisations, les documents, les photos, etc. Et le travail extrêmement précis de Ian Thompson a mené à cette...
Alors, c'est
traduction.
Aussi tout un travail d'investigation, de relation. Alors, être traducteur, c'est pas seulement les mots, c'est tous ces contacts et tout. Et puis, c'est aussi le crayon. Vous avez fait deux portraits de Primo Levi lorsque vous étiez jeune fille avec lui. Et ses portraits sont devenus emblématiques. Hein. On les retrouve sur Arte, partout. Enfin, les gens ont trouvé que c'était formidable. Eh bien, Catherine Petitjean, merci beaucoup. On va lire vos traductions. On va chercher votre nom dans la banque de données de cette maison de publication qui vend des livres par correspondance et dont on ne citera pas le nom. Voilà, merci. C'était l'épisode numéro 110. Une semaine avec Primo Levi, Catherine Petitjean. Merci d'être venue dans notre émission. Vous l'avez bien connue sur Radio Judaïque à Strasbourg. Primo Levi ne courait pas après les médias. Il était très prudent avec les journalistes. Et donc, vous avez passé une semaine avec lui. C'est passionnant. Alors, la semaine prochaine, je recevrai Joanne Hugues pour notre épisode 111. Elle est médiatrice culturelle pour le Musée zoologique de Strasbourg, qui fait peau neuve. Et nous verrons si la vocation d'un musée, c'est de collectionner ou bien de suivre l'air du temps et de s'ouvrir à l'animation grand public. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 sur Radio Judaïque à Strasbourg et le dimanche à midi à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I.